Nous sommes le jeudi 9 juillet, il est 21h et quelques petites minutes sur Radio Canut 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Bonsoir Romain.
Salut Xavier.
Romain, qui a activement soutenu le Cap-Vert, puis l'Égypte pendant la Coupe du Monde de football masculine, malheureusement sans le résultat escompté, et désormais il entame d'ailleurs les démarches pour devenir un citoyen helvétique d'ici dimanche.
C'est compliqué, il faut prouver plein de trucs historiquement, tout ça, c'est pas facile.
Voilà.
Mais au moins, je suis pas comme toi, essayer de devenir paraguayen pour différentes raisons.
J'aime beaucoup leurs députés. Bonsoir Bettina.
Salut.
Bettina qui n'a pas pu obtenir de passe 4 jours pour le Hellfest cette année, c'est pourquoi elle envisage de plus en plus sérieusement de programmer Parkway Drive et Crystal Lake au prochain Indie Game Lyon.
Allez, stylé.
Moi je suis pour.
Oh mais grave.
Je suis grave pour. Tu vas bien ?
Ça va. J'ai un casque qui grésille. Sinon, j'ai un casque qui marche pas. Donc, je me suis remis sur le casque qui grésille.
Oui, mais... le choix est
difficile. Non, mais ne t'inquiète pas. En fait, ce qui va se passer tout à l'heure, c'est pendant que Romain parlera, on fera un échange de casques.
Non, comme ça, mais c'est pas du tout grave. Vraiment.
Parce que le mien, il marche bien.
Oui, mais le tien est neuf.
Voilà. Exactement.
On voit qui se réserve le meilleur matériel.
Voilà, qui est le chef. Comme chaque semaine, on remercie le collectif Presse F5. Comme chaque semaine, on remercie le collectif Presse F5 qui héberge notre podcast Le Nerf de la Game et Radio Canu pour l'accès au studio. Cette semaine, qu'est-ce qu'il y a au sommaire ? Bon, on va pas se mentir, l'actu récente de l'industrie du jeu vidéo est alarmante, entre fermeture de studio, plan de licenciement aussi bien en France qu'à l'étranger, et Consolier qui annonce des changements drastiques dans la manière de profiter de notre loisir favori. Nous reviendrons sur la plupart de ces sujets quand on aura un peu plus de recul, comme on le fait ici dans le nerf de la game. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler de ce qu'on a retenu du Summer Game Fest. Donc nos impressions générales, nos remarques et nos coups de cœur. Avant de demander à tout à chacun... les impressions que vous avez eues sur cet événement, un petit rappel sur c'est quoi le Summer Game Fest tout simplement.
C'était quand?
Alors déjà, on va pas vous refaire toute l'histoire parce que
on l'a déjà fait.
Globalement, pour aller très 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 vite, à la mort de l'E3 qui était traditionnellement l'événement physique annuel rassemblant tous les professionnels du jeu vidéo et concentrant l'essentiel des annonces des nouveautés du secteur, l'ancien journaliste et désormais homme sandwich Geoff Keighley a lancé sa conférence en ligne, le Summer Game Fest, en dansant sur le cadavre. J'ai pas dit en pissant, t'as vu?
Moi, je l'avais dit.
En dansant sur le cadavre chaud de l'E3.
L'E3 qui effectivement était. Qui avait comme
principal... À ce moment-là, il était encore vivant d'ailleurs.
Il était encore vivant, mais qui avait en fait comme principale raison d'être pendant pas mal d'années, finalement, de mettre en contact les gens qui faisaient des jeux et les magasins physiques.
Oui, voilà, c'était vraiment... c'est pour ça que je disais que c'était un rendez-vous pour les professionnels.
Voilà, ouais. Et c'était effectivement, en gros, regardez notre jeu, regardez les chiffres, regardez un petit peu ce qu'on envisage, mettez notre jeu devant, dans vos rayons, partout, et comme ça, vous allez en vendre plein, et nous aussi.
Voilà, c'était...
Donc c'était ce deal-là entre les vendeurs de magasins physiques. Quelque chose qui a légèrement évolué avec le temps.
Oui, voilà. Déjà, rien que sur la fin, entre guillemets, de l'E3, il y avait un contact beaucoup plus direct avec les consommateurs, parce qu'il y avait ce qu'on appelle l'effet de hype, en fait, qui était à la base uniquement donné par les journalistes, qui étaient les seuls relais présents sur place.
Parce que c'était pas ouvert au public.
Voilà. Et à partir du moment où on a eu les conférences qui étaient diffusées en direct. Alors,
d'abord
pour tout le monde.
Ouvertes au public, puis ensuite diffusées en direct.
Ouais, voilà, ouais.
Même si ça a été un mouvement global et accompagné finalement par la fin de la vente en physique, en tout cas le déclin de la vente en physique et la fin de la vente en physique, tu l'as légèrement évoqué tout à l'heure.
C'est ça.
Avec des décisions qui vont dans ce sens-là.
Voilà. Et c'est pour ça que quand Geoff Keighley en fait a lancé sa conférence en ligne Summer Game Fest, dans la lignée que de ce qu'avait fait auparavant déjà un grand distributeur qui s'appelle Nintendo, et que c'est Nintendo Direct, qui avait déjà dit, en fait, nos conférences, on ne va pas les faire en physique avec tout le monde, on va faire...
Alors, ils faisaient ça en parallèle, parce qu'ils faisaient ça quand même, ils avaient quand même une très grosse présence à l'E3, Nintendo. Ils avaient des zones entières où ils avaient...
Bien sûr, mais ils faisaient plus de conférences.
Ils faisaient des conférences
à partir de 2014-2015, ils faisaient quasiment plus de conférences sur place, en fait.
Ouais, des conférences, mais par contre, ils avaient une zone pour Breath of the Wild, par exemple, avec des trucs de démo, ils avaient construit une zone physique avec des faux pièges, des machins. Ils avaient fait un truc...
Oui, non, mais comme ils le font à la Gamescom, comme ils le font à Paris Games Week, comme ils le font partout. Hein.
Présents, dans le sens où ils se sont pas désengagés de l'E3 parce qu'ils avaient leur Nintendo Direct.
Oui, mais je parlais juste de Geoff Keighley qui avait pris comme ça comme modèle.
Oui, effectivement, pour proposer des choses pas en direct, mais pré-enregistré avec un vrai contrôle sur ce que tu veux diffuser.
C'est ça. Au programme, donc, une mise en avant qui se veut spectaculaire des plus gros jeux à venir ces prochaines années pendant une conférence d'environ 2 heures. Je ne vais pas dire aligné sur les Oscars parce que ça, c'est plus le modèle des Game Awards, mais ouais, quelque chose qui s'en rapproche quand même.
Tous les 6 mois, quoi.
Voilà. En gros, il y a juste en hiver, ils donnent des statuettes et en été, ils donnent pas de statuettes. C'est tout.
Ils disent regardez les prochaines statuettes qu'on va donner.
Oui, voilà.
C'est ça. En gros. Et puis des déclarations tapageuses. On va pas revenir là-dessus. Peut-être cette année, on parlera de son costume qui était assez incroyable.
Il fait ça exprès, c'est pas possible.
Évidemment. Qu'est-ce qui s'habille mal
cette année? Il a pas écrit Doritos en gros dessus. Ouais, il fait des efforts.
Oui, non, mais c'est déjà bien. Hein. En fait, voilà. Donc on a cette conférence de 2 heures environ, auquel s'est greffé officiellement d'abord la première greffe officielle, c'était le Day of the Devs. Un événement créé par Tim Schafer. Tim Schafer qui fait partie donc de Double Fine.
C'est rigolo ça.
Qui fait toujours, oui, officiellement partie de Double Fine.
Qui officiellement existe ou toujours?
Non mais c'est pour ça. Aujourd'hui c'est le journal des bonnes nouvelles, donc tu te tais, d'accord?
Mais la bonne nouvelle c'est qu'ils existent toujours.
Voilà,
c'est gagné il y a quelques jours. Hein.
Oui.
Et donc le Day of the Dev, par rapport au côté grand barnum de la conférence de Geoff Keighley, se concentre sur des petits jeux indés, enfin plutôt très indés, de petite envergure, avec à chaque fois un accent mis sur les développeurs pour qu'ils puissent parler de leur création. D'autres entités en ont profité pour créer et diffuser leur propre événement de leur côté, comme évidemment, j'ai évoqué les constructeurs, notamment le Nintendo Direct, puis le Sony State of Play,
le Xbox Showcase,
et puis aussi des rassemblements de studios sur des thématiques comme le Wholesome Games, le Women-led Game, ou plus récemment le Black Voices ou le Story Rich fait par Fellow Traveler. Et puis les mises en avant de zones géographiques, donc le Latin America, le Southeast Asian, le India, cette année le Deutsche Indie qui faisait partie pour la première fois de la partie officielle.
T'as le truc Frost de l'Amérique, d'Australie. Et
oui, c'est vrai aussi le New Zealand et Australie.
Ouais, voilà là-bas, c'est quoi. Ça. Ouais.
Loin là-bas, là, je sais pas.
Mais du coup, de temps en temps, il y a de la redite.
Oui,
parce
c'est
que
ça.
Les thématiques spécifiques et des zones géographiques peuvent complètement se coordonner. Enfin,
effectivement.
Télescoper, c'est le mot.
C'est ça. Et en plus, il y a un truc un peu particulier parce que Geoff Keighley a passé des accords dont on ne connaît absolument pas les termes avec certaines de ses conférences pour les rattacher au Summer Game Fest. Parce que quand on va sur le site du Summer Game Fest, certaines sont listées, mais pas toutes. Il y en a d'autres qui sont pas listées. Typiquement, le futur Game Show. Qui est quand même un truc qui est assez conséquent, il n'est pas listé dans le truc.
Mmh. Donc, il a lieu le samedi au milieu finalement des autres, pas en même temps qu'une autre conférence officielle du Summer Game Fest.
Mais il n'est pas listé dedans.
La place avait été libre, en plus c'est samedi soir à 21h, c'est quand même n'importe quoi en termes de prime time, mais c'est...
Oui, mais il n'y a pas eu d'accord commercial, quoi.
Oui,
c'est là qu'effectivement la question se pose.
C'est quoi l'accord qu'il y a entre les différentes confs
Pour que tu sois dans la liste sur le site officiel Summer Game Fest.
J'oublie en plus la place un peu particulière de l'Accessibility Showcase, qui est dedans et pas dedans, c'est un peu particulier aussi.
Chez Microsoft.
Enfin, oui, voilà. Non, chez Microsoft, c'est plus dedans. Au moins, c'est réglé.
Si, c'était dedans jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et puis depuis lundi, il n'y a plus personne.
Ouais, voilà. Et en fait, pour au nerf de la game, on va prendre une définition simple. Le Summer Game Fest, c'est l'ensemble des conférences entre fin mai et mi-juin qui présentent des jeux à venir.
Voilà.
Disons que tu t'es. Tu t'es pas mouillé.
Alors, je me suis pas mouillé, mais est-ce que tu veux qu'on refasse le débat de l'Indie Game Award pour savoir ce qu'est un jeu indé? Non, moi j'ai pas envie. Donc là, on m'a dit, vas-y, je prends tout.
Alors, juste pour rappel, on a quand même déjà fait une émission sur l'AG French Direct.
Oui, c'est pour ça que.
Une semaine avant, grand Barnum dont tu parles. Donc, voilà, on va pas
déjà, on vous encourage à réécouter cette émission parce que déjà, c'était une très bonne AG French Direct avec beaucoup de choses à
faire. Et effectivement, la discussion autour de la différence entre l'AG French Direct et le Game Friend in France était très intéressante également sur les différents statuts des trucs. Mais effectivement, donc, c'était la semaine d'avant.
Mais oui, on va pas reparler de ces jeux-là.
Ouais, on va pas choisir non plus des jeux dans cette catégorie, on l'avait déjà fait.
Voilà. Donc avant qu'on attaque ça, déjà, Bettina, est-ce que tu avais eu. C'était quoi ton impression globale sur tout ce grand Barnum qu'on a eu ces 2-3 annonces de jeux qu'on a eues pendant quelques jours.
Ça fait beaucoup d'un coup, quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé à regarder et puis finalement, au bout d'un moment, à force de. Enfin, oui, il y avait d'autres events. Au début, j'ai regardé. La conf principale avec Geoff Keighley et puis Day of the Day qui était juste après et après j'ai commencé j'ai regardé la Dutch Indie et je me suis dit bah vas-y je vais voir s'il y en a d'autres et en fait il y en avait beaucoup trop et c'est là où j'ai fait une overdose et je fais ok bon laisse tomber c'est pas grave mais ouais ça fait beaucoup d'un coup mais bon en même temps il y a énormément de jeux sur le marché donc oui
c'est plutôt logique. J'ai eu la chance de pouvoir commenter deux des conférences, mais surtout une des conférences à la PC Gaming Show avec une personne dans ce studio. Et visiblement, ce n'est pas toi, Bettina.
Non.
C'était une très bonne soirée qu'on a passée avec quelqu'un d'autre en plus.
Oui, c'était avec Lupus et non, c'était avec Belten. C'était avec Belten.
C'est avec Belten. Un jour, on vous le présentera parce qu'il a des choses à dire.
Oh oui, je pense que dans pas très longtemps, il aura beaucoup de choses à dire.
Il paraît qu'il travaille dans le milieu.
Voilà.
Soutien à tous les gens d'Arcane. Au passage, je dis ça comme ça.
Ça n'a aucun rapport avec Belten, évidemment.
Absolument aucun.
On a passé effectivement une très bonne soirée. Déjà parce que c'était, selon moi, le meilleur PC Gaming Show que j'ai vu depuis très longtemps en termes de qualité de jeu. PC Gaming Show, souvent, c'est un peu l'enfer.
Mais tu vois, ouais, je l'ai pas vu, je crois. J'ai regardé le Xbox Showcase, mais ouais, non. PC. Tu vois, en fait, il y en avait tellement que je sais même plus ce que j'ai vu et ce que j'ai pas vu, quoi.
Bah, disons que je suis passé. Alors, à titre personnel, je suis passé assez rapidement sur les consoliers. Ouais. Donc Nintendo.
Mais attends, PC Gaming Show, ils ont pas fait la mise en scène.
Friends.
Ouais.
Oui.
Oh bah si, j'ai tout vu.
C'est eux.
Les scénettes cringe, tout vu.
PC Gaming Show égale cringe, hein, attention. Hein,
Oui, mais là c'était assumé, c'était drôle.
Oui, mais c'était moins pire.
C'était
que les années précédentes.
Bien moins pire. Oui. Et surtout, ils avaient de bien meilleurs jeux en plus.
On va pas dire que c'était bien, mais c'était moins pire.
Et surtout, ils avaient de bien meilleurs jeux que d'habitude, donc
non. Pas si mal.
Franchement, enfin d'habitude c'est la purge. Honnêtement, c'est la punition. Tu te tapes le PC Gaming Show. En plus, c'est l'une des dernières. Et elle dure 2 heures. Et ils font des blagues de merde. Soir. Et c'est souvent compliqué.
Elle est le dimanche soir après qu'on soit déjà tapé.
Et souvent, en plus, quand t'as des redites, t'es encore. Oh, je perds mon temps pour rien. Vous faites chier. Là, honnêtement.
Ouais, ça allait.
Et surtout, il n'y avait pas eu des tunnels de pub.
Ouais.
Il y a eu vite fait un peu de pub, etc.
Pour une
machine, tu sais, pour un PC,
qu'on
pouvait gagner avec 16 gigas de RAM, donc le truc qui vaut 3 salaires. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler.
Mais oui. Et puis en plus, le truc que j'avais aussi beaucoup apprécié, c'était le format. À un moment, ils ont mis un format d'interview avec des devs qui étaient un peu avant la PC Gaming Show et inclus à l'intérieur.
Ouais.
Et c'était super intéressant, tu vois.
Ouais, ouais.
C'est vrai que c'est une des vrais, comment dire, des vrais moments un peu bancals dans le Summer Game Fest, les moments où les devs viennent s'exprimer.
On en avait un peu parlé
pendant la GFRM Direct, où tu as des gens, ils sont pas formés à ça, ils savent pas le faire. Et ça, c'est toujours un peu compliqué.
Ça fait des vidéos vraiment fait main, mais par des gens qui savent pas trop faire.
Non, difficile à regarder des fois. C'était pas le cas de toutes.
Non.
Parce qu'il y en a certains justement qui s'en sortent pas trop mal dans l'exercice. Mais aux alentours, enfin dans le cadre du Summer Game Fest dans son ensemble, tu parlais un peu du ressenti général. On l'a plus encore pendant justement la fête à Geoff. du vendredi soir, le Summer Game Fest officiel avec le nom qui va avec, où il a régulièrement, et on, enfin, régulièrement, en fait, des gens qui sont pas des anglophones, qui viennent parler et qui sont traduits juste après par
souvent les studios japonais,
c'est ce qu'ils font.
Et ça fait un temps compliqué.
Il manque le côté joyeux, le côté regardez, on transmet l'enthousiasme et, parce qu'il y a cette histoire.
Et des fois, justement, le décalage culturel est, enfin, entre ce qui est attendu d'une présentation par un japonais pour un public japonais et ce qui est attendu, en fait, des fois t'as vraiment une différence qui est presque entre guillemets choquante quand on repense par exemple au Yakuza Like, où d'un coup d'abord tu as une présentation très japonaise, très carrée, puis d'un coup t'as Snoop Dogg qui arrive en mode j'en ai rien à branler. C'était très très bizarre.
Regardez, j'ai ramené Tupac.
Tu vois, la juxtaposition, déjà le moment juste de Snoop Dogg était bizarre, mais la juxtaposition avec le côté japonais très droit, en plus avec le côté décalage avec la traduction à chaque fois, c'est le Summer Game Fest comme on le connaît, c'est-à-dire quelque chose dans la Uncanny Valley.
c'est toujours effectivement, tu l'as à ce moment-là, mais tu l'as pendant le Day of the Dev aussi. Ouais. Tu as, en fait, tous ces moments où finalement tu vas avoir des devs qui vont parler face cam de leur projet de différentes façons. Tu l'as des fois avec d'autres gens qui sont là pour les interviewer de façon un peu cadrée. Tu vois, simplement, en fait, ils parlent avec un accent anglais quand c'est pas leur langue maternelle, que tu sais pas trop d'où il sort. Enfin, c'est toujours en fait des moments où tu sais jamais réellement où ça va aller, si ça va fonctionner.
Je tiens à dire quand même je tiens d'ailleurs à inciter tous les devs français, continuer à avoir the Frenchiest accent ever. C'est incroyable, j'adore. Je kiffe. Limite des fois l'accent est tellement français que même moi je comprends pas ce qu'il raconte. C'est fou.
Mais depuis Expédition 33,
ça me fait trop marrer parce que. Mais c'est pareil, tu sais, quand tu vas voir la Latine américaine et que des fois, il y a des types, ils ont un accent à couper au couteau, ils parlent anglais, rien. Moi je trouve ça, globalement, ça fait partie du charme du truc, tu vois.
Mais et c'est pas lié effectivement à le côté intéressant de regarder effectivement des gens parler de leur jeu, parce que certains savent le faire et certains savent pas le faire, au-delà de la langue et de
l'accent. Bien sûr.
C'est un vrai exercice qui est pas maîtrisé par tout le monde, et effectivement, ça fait partie, je trouve, des incertitudes à chaque fois qu'on regarde ce genre d'événements.
Effectivement. Merci à vous trois. On va passer au moment fatidique.
À vous trois. Il y en a un qui s'est dédoublé.
Bah oui. Ouais. Alors moi je me vous vois.
D'accord. Il parle de lui à la troisième.
Personnellement, je me vous vois. Donc c'est comme
donc
ça.
On va couper le micro. On va être à trois toujours. Ouais. Mathématiquement, on est bon.
Merci à nous trois donc.
Voilà.
Je suis très beau.
Regardez pas les photos et les vidéos. Hein.
C'est pour ça qu'on fait de la radio. Bettina, est-ce que tu peux me parler d'un premier jeu qui t'a fait tilter lors du Summer Game Fest?
Ouais, avec grand plaisir. Après, c'est probablement pas une surprise pour beaucoup de gens, mais comme je me tiens pas trop au courant, je déteste les trailers, les teasers, les trucs comme ça, donc je me renseigne pas forcément trop. Et l'été, c'est l'occasion justement de faire une overdose de trailers. Et du coup, ouais, je suis très intriguée. 66 Amsterdam. Donc c'est un jeu d'action-aventure narratif. Je vais quand même en dire quelques mots pour le présenter. Mais du coup, il y a donc à savoir que on peut jouer au prologue sur Steam. Mais moi personnellement, je n'ai pas joué au prologue. Donc je vais vraiment juste vous parler de mes impressions et de mes espoirs, juste par rapport à l'annonce qu'on a vue. Donc on incarne Noah Brooklyn, qui est une perceptrice élevée par les Zendari. Alors ne me demandez pas ce que c'est que les Zendari, mais j'ai hâte de découvrir. Et en fait, elle manie la sorcellerie et les sortilèges qui sont transmis de génération en génération par ces fameux Zendari. Mais on incarne aussi Aaron, qui est en fait un être qui a été invoqué sous forme de chat, et on va pouvoir alterner entre les deux gameplays. Donc à voir ce que ça donne. J'ai pas vu trop de gameplay du chat.
On peut jouer un chat, donc Game of the Year.
Grave.
Ah, donc c'est Assassin's Stray.
Ouais, c'est ça, complètement. Et donc, ouais, notre mission, ça va être de lutter contre une force obscure très ancienne qui est en fait incarnée par des entités qui se dissimulent parmi les humains. Et du coup, il va falloir les débusquer et collecter leurs pouvoirs. C'est ça notre rôle de perceptrice.
Comme dans Heroes ?
Oui, sauf que là, on est...
La rêve de vieux, oui, bah, oui, oui, oui. A, bon.
Le fameux tueur en série qui récupère les pouvoirs.
Exactement.
Tout à fait. Je sais plus comment il s'appelle, mais oui. Donc ouais, le lore a l'air intéressant, en tout cas par rapport à mes goûts personnels. Et donc ouais, tout ça pique ma curiosité, puis ça convoque beaucoup l'imagerie des sorcières, et j'aime bien, ça m'attire plutôt pas mal. Donc voilà, il devrait sortir normalement à la fin de l'année 2026. Bon, après, on verra ce que ça donne vraiment. Mais ouais.
On a deux, trois choses à ajouter.
Ouais, ouais. Je vais juste ajouter un truc. Pourquoi j'ai parlé d'Assassin's Creed, c'est parce qu'il y a l'implication de Patrice Desilets.
Tout à fait.
Qui est donc le un des créateurs. Oui, et
un
le
directeur créatif de Assassin's Creed.
Ouais, voilà. Et qui a été. En fait, qui avait. Même pour ceux qui avaient vu. Les premières vidéos, il y avait des vidéos d'essai en fait déjà sur ce qu'allait devenir Assassin's Creed et tout, qui avaient été présentées par Monsieur Desilets, donc
oui, il y a longtemps.
Oui, voilà, il y a longtemps, donc, et qui avait quitté Ubisoft depuis. Donc il y a ça, mais je pense que Romain a autre chose à dire sur le sujet, et c'est quelque chose dont j'ai entendu parler, mais je pense qu'il est plus au courant que moi.
Alors effectivement, tu l'as cité effectivement qu'il y a un prologue disponible sur Steam qui a été rendu disponible au moment où la page Steam ouais. a été apparue pendant le
ouais pendant la conférence oui
tout à fait a été constaté par des gens qui surveillent un petit peu les choses de près que le contenu en fait dans ce jeu avait été en partie généré par IA.
Ah mais putain, mais je savais pas du tout. Okay.
Ce qui fait que en fait ça n'avait pas été déclaré par le studio quand on a dit, ouais. quand la question a été posée au studio et notamment à Patrice Desilets, il a dit oui mais vous comprenez c'est des placeholders et puis on modifiera ça plus tard mais on était quand même bien emmerdé de s'être fait choper.
Ouais, okay, voilà. Ok, c'est okay.
ça. Voilà, la petite subtilité ouais. Qu'il fallait mentionner malheureusement.
Non mais tu fais très bien.
Parce que effectivement moi aussi j'étais complètement vendu par le truc. Hein.
Ouais,
et puis
ouais.
surtout, les images j'étais vendu.
Et puis surtout enfin moi j'étais très content d'avoir quelque chose de Patrice Desilets parce que enfin il faut comprendre que ce qu'on connaît d'Assassin's Creed entre ce qu'on connaît maintenant d'Assassin's Creed et ce qu'il avait créé à la base oui. il y avait quelque chose de beaucoup plus organique on va dire où c'est plus limite une enquête géante etc c'est ce qu'il voulait mettre en place
ouais, ouais.
et que tu te dis tiens s'il arrive à mettre ça en place dans un jeu en 3D aussi historique et tout ça pouvait vraiment être très intéressant et puis il y a aussi le fait voilà comme tu disais le thème des sorcières un truc ça m'avait beaucoup intrigué quand Ubisoft avait parlé de Assassin's Creed Exe
ouais.
Donc vous voulez parler aussi de ce thème-là. Alors c'était il y a longtemps, on ne sait pas où ça en est, etc., etc.
Alors, on sait qu'ils ont changé le directeur créatif plusieurs fois.
Ouais, ouais.
Le mec passe, revient, il licencie, il revient.
Oui, ouais, voilà.
C'est je bordel, sais que c'est, on ne sait pas quand est-ce qu'ils sont
arrivés. Oui, mais c'est juste. En fait, moi, je me souviens juste à l'annonce, j'ai fait ouais, ça peut être cool. Tu vois.
Bien,
ouais, ça peut être cool. Après, qu'est-ce que ce sera comme on sait. Je ne sais même pas s'il sortira un jour. On n'en sait rien, tu vois. Mm. Mais c'est vrai que justement, quand tu vois le 1666 Amsterdam, tu te dis ouais. tiens. C'est peut-être cette vision-là qui pourrait être intéressante. Bon, on verra comment ils s'en sortent par rapport ouais. à justement cette gestion avec de l'IA générative.
Bah là, il y a plusieurs voilà. scénarios possibles. C'est que soit ça sort avec de l'IA, mais du coup, il y a énormément de gens qui vont leur tomber dessus et ça va pas être, ça va être assez mal reçu par beaucoup de gens. Soit ils retravaillent le truc, mais du coup, ils vont décaler la sortie parce que.
De toute façon, ils ont pas mis de date, si je me souviens bien. Ils avaient juste mis un prologue en disant.
Genre 2027 ou un truc.
J'ai pas trop su trouver une source sûre parce que sur Steam c'est juste écrit prochainement.
Ouais.
Il y a zéro précision. Mm-hmm. Mais en essayant de chercher un peu justement qu'est-ce qui a pu être dit, à un moment donné il avait été fait mention justement de fin 2026. Mais c'est pour ça que je l'ai utilisé avec des grosses guillemets. J'ai dit qu'il devrait sortir fin d'année 2026, mais en vrai je serais pas du tout surprise que ce soit pas le cas et que ce soit reporté à plus
Bien
tard.
Sûr. Okay. Parce que ça a l'air. Enfin, on parle d'un jeu 3D. Avec une 3D quand même assez goûtue.
Ouais. Mmh.
Donc on sait que c'est un jeu qui va demander beaucoup de ressources de base et que, entre guillemets, même si tu dis je vais utiliser de l'IA et après je vais maquiller derrière pour que ça se ressemble pas trop, ça va te prendre du temps.
Oui, oui.
Si
tu as utilisé l'IA en placeholder et qu'il faut tout remplacer,
ça te prendra du temps de toute façon. Donc, ouais.
Mais c'est vrai que c'était les premières nouvelles qu'on avait de Patrice Desilets depuis Ancestors,
ouais,
Odyssey, dans lequel on jouait en fait, des primates qui évoluaient, qui avançaient tout doucement vers Sapiens, quoi.
Ouais, c'est globalement, un jeu assez particulier qui a eu un succès assez mitigé.
Qui a été intéressant dans le concept, défaut de game design, mais qui était malgré tout une tentative. Intéressante.
C'est souvent pour ça qu'on aime suivre quelqu'un comme Désilé. Et de manière générale, les créateurs français des années 90-2000, justement, où tu avais des gros concepts, je pense à Sokal, je pense à d'autres gens, tu vois. Toujours, tu dis les concepts. Alors après, la mise en œuvre, c'est autre chose. La mise en œuvre, toi, mais les concepts, tu dis putain, il y a quelque chose, quoi. Merci Bettina. Moi, je vais parler. Tu parlais de la Deutsche Indie Showcase.
Oui.
Je vais parler d'un jeu. La Deutsche Indie Showcase. tu veux que je fasse le reste de ma chronique en allemand? Parce que je suis capable.
C'est bien ce qui m'inquiète.
Par pitié.
Non, je vais parler d'un jeu qui s'appelle Children of Saturn.
Oui.
Un jeu de Nils Schultze, un jeu de passage à l'âge adulte de scénette en scénette, un peu en mode found footage, tu vois. C'est donc pour ceux qui sauraient pas, peut-être si vous avez vu Blair Witch à l'époque Cloverfield, on a l'impression que quelqu'un a une caméra est en train de filmer des petites scénettes. Et là, c'est des scénettes vraiment en fait où on suit un groupe d'ados qui grandit dans une ambiance en fait c'est comme si c'était dans une ambiance mode Life is Strange, sauf que ce sont des gens absolument paumés et qui aiment beaucoup le punk. la démo était disponible à ce moment-là, j'ai adoré tous les instants que j'ai passés sur ce jeu. On est sur quelque chose de très narratif, on est sur quelque chose qui va pas forcément t'expliquer son histoire, ou c'est vraiment tout sur de l'ambiance, sur ce côté fin d'adolescence, jeune adulte, où en même temps t'es sûr de ce que tu veux faire, en même temps tu te cherches toutes les 5 secondes. Et
tu écoutes de la musique bizarre?
Non, tu écoutes de l'excellente musique. D'ailleurs, la BO de Children of Saturn, mortelle. Ouais,
à toutes les personnes qui nous ont dit ça te passera.
C'est juste une phase.
Ouais, c'est juste une phase.
Non. C'était trop bien. Mais la démo m'a conforté sur l'impression attirante et bizarre. Ça marche extrêmement bien. Je conseille d'ailleurs, je sais pas si c'est encore en ligne, mais l'ami Lupus avait joué à la démo en ligne et c'était super cool. Franchement, ce jeu-là, pas Day One, mais pas loin. Franchement, il est
quand
très très cool.
Ça me fait un petit peu penser à Mixtape. Dans l'idée.
Oui, mais Mixtape c'est pas du tout la même ambiance.
Ouais, voilà. Mixtape est beaucoup plus solaire.
Ouais.
Dans sa DA.
C'est ça.
Dans sa DA, il y a presque un côté beaucoup plus crépusculaire dans Children of Saturn. Pas forcément on va tous crever, mais il y a un côté on sait qu'il y a une fin à quelque chose. Parce que justement, c'est la fin de l'adolescence, des jeux d'adultes. Va falloir que tu fasses des choix, que tu partes de ton petit trou paumé, etc. Donc,
un peu pareil dans Mixtape, pas avec la même optimisme.
C'est pas la même ambiance.
Non, pas du tout la même ambiance.
C'est marrant que tu vois deux jeux à peu près dans ces environnements-là, dans ces ambiances-là.
C'est les mêmes thématiques et tout.
Même musicalement, Mixtape a une vraie identité musicale
pour
signifier une période et un moment de l'existence qu'on a connu.
En tout cas, il y a quelque chose de profond qui a l'air profondément, je vais pas dire optimiste, mais en tout cas qui se veut plaisant dans Mixtape.
Oui.
C'est pas ce que je vois dans Children of Saturn.
Un peu nihiliste.
Ouais, voilà. Alors, pourtant, il est cool à jouer. Mais il y a un côté qui se dit. Vas-y, c'était pas juste une phase, quoi, c'est tout.
c'est intéressant de les comparer quand les deux sont sortis.
Ouais.
Mixtape est sorti.
Ouais. Il est toujours sur ma wishlist, Mixtape.
Je l'ai toujours pas fini parce que je trouve pas le temps de jouer en ce moment, mais je pense que j'ai fait les deux tiers. Vous vous rappelez cette émission où j'ai eu un trou et j'arrivais pas à vous dire à quoi j'étais en train de jouer en ce moment? C'était Mixtape.
D'accord. Je sais pas si c'est une bonne chose pour le jeu ou pas.
C'est juste les noms, je ne retiens pas les noms.
Romain, est-ce que t'as un jeu qui vient de popper?
Oui, absolument. Je vais partir sur une direction un petit peu différente avec un Vampire's Masquerade Eternal Whispers. Donc on est sur du jeu de rôle, clairement narratif. Donc on est sur un jeu dans l'univers donc officiel de Vampire la Mascarade. Ce jeu de rôle qui a déjà été décliné pas mal de fois en jeu vidéo, sur plein de façons différentes.
J'allais dire pour le meilleur et pour le pire.
Ouais, il y a eu des bons, il y a eu des jeux extrêmement, il y a eu même des visual novels, donc uniquement en fait du texte et de la discussion, il y en a un certain nombre. Il y a eu Bloodlines, il y a eu Bloodlines 2.
Je pense à Big Bad Wolf, malheureusement.
Oui, et aussi avec Swansong.
Oui.
Bref, celui-ci, c'est un studio que je ne connaissais pas, qui s'appelle Flyos, qui s'occupe de ça, et on est dans une... on se réveille de une torpeur qui a duré des dizaines d'années, comme souvent, hein, et on se réveille donc dans un Montréal, donc dans l'univers de la mascarade, donc avec des vampires partout, et on est sur une représentation en image, comment dire, en vue isométrique, un petit peu... J'allais pas dire à l'ancienne, mais sur quelque chose de pas en vue à la première personne, extrêmement réaliste. Et avec
une vibe un peu rétro, mais
ouais,
c'est pas...
en tout cas assez minimaliste au niveau de la présentation, enfin qui s'intéresse finalement à l'ambiance que ça va montrer, et beaucoup plus finalement sur le texte, que enfin sur les rapports, etc., la discussion, que sur je sais pas, de l'action ou des combats ou ce genre de choses.
Et est-ce que ce serait pas justement un héritage de d'un Disco Elysium ou ce genre de choses, j'imagine.
J'ai l'impression que ça va un petit peu dans cette direction-là en termes de d'écriture. J'ai perdu le casque.
Oui, non, mais on t'entend bien.
Pas de problème. Mais du coup, ça m'a surpris pendant une seconde. ouais, ça a l'air d'être de s'approcher de ça, en tout cas, vraiment de s'intéresser finalement aux personnes, aux choix qu'on va faire, aux discussions, enfin vraiment beaucoup basé sur le texte. Visuellement, c'est assez sympa. Je le disais, enfin, j'ai pas envie d'utiliser le terme minimaliste, mais ça s'intéresse beaucoup à l'ambiance, bien plus à l'ambiance qu'à une certaine...
Un peu épuré, mais oui.
Ouais, bien plus qu'à du photoréalisme dans lequel on va te... Voilà, tu vois les choses, action, etc. Et j'aime bien cette approche-là. Je pense que c'est une des bonnes façons d'aborder un univers aussi riche que la mascarade, que Vampire la mascarade, et le monde, le World of Darkness en général. Donc voilà, c'est pas annoncé avec une date pour l'instant. Ça veut pas faire des effets de style avec je sais pas comment trop le dire. C'est assez discret comme annonce aussi. C'est un éditeur qui est pas très très connu. C'est Quali. Alors la dernière fois qu'on a entendu parler de Quali, c'est quand ils ont viré tous les gens qui ont fait leur FPS là. The Last Abyss ou un truc dans le genre, qui n'était pas inintéressant, une sorte de Returnal un petit peu moins ambitieux, mais et bref, le jeu est sorti, ça s'est pas super bien passé au niveau des ventes, du coup ils ont viré toute l'équipe interne qui avait développé le jeu, donc on félicite vachement ce studio qui me semble est britannique, enfin cet éditeur qui est britannique, mais toujours est-il que c'est je pense la bonne approche narrative et construite autour d'un univers et bien plus qu'autour de l'action. Pour la mascarade, qui est quand même beaucoup plus adapté à ce genre de proposition.
Ouais, ce côté justement très écrit et très narratif me fait vraiment penser à justement au prochain jeu de je crois édité par Wadjet, hein, qui s'appelle Nightcrawlers,
absolument,
et dont j'avais fait la démo là, d'ailleurs si vous vous dites je vais regarder un petit peu la démo pour voir ce que vous en avez pour 2 heures. Et c'est que du texte, et c'est très très,
elle est très cool.
C'est très cool, voilà.
L'écriture, c'est de l'auteur des jeux Sunless Skies et Sunless Sea.
C'est top. C'est top.
Quelqu'un qui sait écrire effectivement des univers.
Et c'est très bien doublé aussi, mais c'est pas étonnant parce que c'est du Wadjet.
Et c'est Ben Chandler.
Oui. Qui fait les graphismes, ouais.
Et ça,
Ben Chandler qui a fait
qui a fait beaucoup de jeux Wadjet.
Les Techno Babylon.
Excavation of Roswell. Il a pas fait tout, mais il a participé.
Mais il a quasiment. Enfin voilà.
C'est un gars incroyable en termes de.
D'ailleurs, j'ai fait exprès de pas parler du prochain Ben Chandler juste parce qu'il était pas dans le serveur, mais le prochain Ben Chandler, il va être. Il a l'air baboule.
À mon avis, à un moment ou à un autre, tu vas nous en reparler.
C'est clair. Bettina, est-ce que tu as un deuxième jeu?
Alors oui, j'en ai plein, il faut que je choisisse. il est 40...
On en est tous là.
Ouais. De quoi je vais vous parler
Sauf qu'on pensait que toi, t'avais préparé.
Mais j'ai préparé, mais nous, non, du coup, trop tôt. Non, mais si, mais je vais vous parler de Kemori, je pense. Donc, un jeu d'action-aventure au Japon. Et oui, je suis une weeb. Et alors?
Alors, je sais pas pour Romain, mais c'est pas ici, là, la personne qui parle au micro qui va te dire, oh là là, let's weeb, c'est pas bien.
Alors, moi, je suis en minorité. Et je vais donc couper vos micros.
Fun fact, pour les gens qui nous écoutent, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on se voit, pour avant l'émission ou après l'émission, quand on rentre en métro avec Xavier, on parle de quel est l'animé qu'on est en train de regarder en ce moment.
Et voilà. En plus, là, en ce moment, il y a des trucs.
Ouais.
Et c'est pour ça que je rentre pas avec eux en métro.
C'est ça. Et donc ouais, ça a l'air, Kemori, ça a l'air d'être vraiment comme jouer un shonen, quoi. Sur le papier, franchement, ça me tente de fou. Ça fait très penser à Jujutsu Kaisen, par exemple, mais aussi à beaucoup d'autres mangas du même genre.
Carrément.
En fait, on va incarner des chasseurs de yokai. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas, les yokai, en fait, en résumé, c'est les esprits du folklore japonais et il en existe énormément, donc il y a vraiment de quoi faire avec ça. Et donc dans le jeu, il y aura trois classes de chasseurs selon leur manière de combattre, donc soit au katana, à l'arc ou avec de la magie. Donc bon, le trailer, franchement, ça donne plutôt envie, enfin moi en tout cas.
Un trailer très action.
Ouais.
Pour le coup.
Oui oui, très très action.
Très jump cut action, genre paf. Donc
faut voir ce que ça donne, ouais. Manette en main. À l'heure actuelle, je n'en sais rien. Mais en tout cas, de ce qu'on voit dans les images, vraiment, l'accent, il est mis sur, ouais, sur la mise en scène et sur créer des persos stylés, avec des fringues stylées, qui prennent des poses stylées et qui font des trucs stylés.
Oui, non, mais évidemment.
Oui, voilà, non, mais complètement.
Moi, j'ai juste peur du côté, ça a l'air super stylé et tout, et tu tombes sur un Ninja Gaiden où tu vas roter du sang.
Parce que
les Japonais sont très fans aussi de ça, ouais, des jeux vrai. C'est super cool, mais en fait, c'est. Dur.
Ouais, peut-être. Alors j'ai pas
voir.
Du tout eu cette impression, mais encore une fois,
ça peut arriver.
On est basé, base sur un trailer, donc je n'en sais rien. C'est possible. En tout cas, ouais, moi je suis très sensible à cette DA perso. Ça me hype. Donc ouais, j'espère que le game feel va être chouette. J'espère que l'histoire va être intéressante aussi, parce que personnellement, j'ai besoin d'avoir une histoire qui m'embarque dans une aventure. Sinon, je m'ennuie très vite. C'est annoncé pour 2027 sans plus de précision. Donc,
2028.
Ouais, on verra.
Non, ouais. Mais oui, enfin, juste le truc, c'est comme tout, hein, on ne sait pas à quel stade d'avancement c'est. Tu sais chez qui a fait ça ou pas?
Oui, son nom c'est Ikumi Nakamura et son studio Unseen. Et justement,
c'est chez une grosse boîte ou derrière?
Je sais pas exactement. Et,
genre un Bandai Namco, parce que honnêtement, vu ce que ça montre, et quand on connaît un peu le tissu du développement indé au Japon,
ouais.
C'est difficile de se dire qu'il a sorti ça tout seul comme un grand dans son coin.
Femme.
Ah, elle. Qu'elle a sorti tout seul ça dans son coin.
Et ouais,
ça paraît compliqué.
Je sais pas trop. Je sais pas trop qui peut éditer ou accompagner Kemori. Je sais pas. Okay. Ouais, j'ai mal fait mon travail de recherche.
Non, mais c'est pas grave.
Je t'avoue que j'aurais pas d'infos à rajouter. Mais...
Pour le coup, c'est pas grave parce que, honnêtement, il a fait quand même pas une bonne impression à pas mal de gens pendant Summer Game Fest. Donc, je pense qu'on va en entendre parler dès qu'il y aura genre un nouveau trailer. Je pense qu'on on s'en reparlera à ce moment-là.
Bah, j'ai vraiment très peur de ce truc de justement le trailer en met plein les yeux et que ce soit finalement un peu décevant. J'ai peur de ça. Donc, je n'en sais rien.
En fait, ça fait partie des risques du
jeu. Ouais. Tout dépend du stade de dev, en vrai. Ouais. C'est toujours comme ça. Hein. C'est-à-dire, voilà. Moi, je vais parler d'un jeu, wholesome. Voilà, parce que forcément.
Parce que ça suffit, vos jeux avec des gens pas contents et pas heureux.
Ah, pardon.
Comme j'étais en train de chercher sur Google pendant qu'on parlait, en fait, le seul truc que je lis, c'est développé par Unseen, édité par Unseen.
Bon. Ok. D'accord.
Voilà.
Alors, le truc, Unseen, je sais pas quel moyen. C'est, mais on est d'accord que de toute façon, pour passer un trailer, tu vois, il faut avoir des sous.
Oui.
Donc, c'était pendant le Summer Game Fest, du vendredi soir.
Ouais. Voilà, et voilà, on n'a pas rappelé les prix, mais on le refera tranquillement pendant le Game Award. Mais bon.
C'est pas du niveau du Game Award.
C'est pas au niveau du Game Award, mais bon, c'est pas donné, quoi. C'est-à-dire que.
On
va être clair, c'est en milliers de dollars. C'est en dizaines de milliers de dollars.
Pas 10 centaines, mais.
Je sais pas à quel point c'était long, donc faut voir.
C'est vrai qu'il y a aussi eu des vrais tunnels. Il y avait beaucoup d'argent.
Et il me semble que ça, c'était un trailer genre 30 secondes, donc je sais pas.
Il était assez court, ouais.
Donc je sais pas, mais bon.
Ah non, mais il y a quand même une partie interview. Est-ce que c'était pendant Day of the Dev? Je ne sais plus. Mais justement, elle a fait une, il y a eu une autre vidéo où elle est face cam et elle parle du projet.
D'accord. Donc, ouais, bon, ça veut dire quand même un budget market.
Ouais.
Pas dégueu. Donc,
avoir existant, en tout cas.
Avoir ce que c'est Unseen là-dessus. Ce serait pas étonnant aussi que ce soit, par exemple, il y a un groupe chinois derrière. Ce serait pas si étonnant.
Peut-être, je ne sais.
Pour qu'il puisse se retirer comme le NetEase se retire de tous ses projets.
Genre, vous avez aimé la vidéo? Bon, bah voilà.
Vous avez aimé
Dragon, un jeu Wholesome.
Ouais.
Un jeu Wholesome.
De la joie et de la bonne humeur.
Oui, voilà, parce que, bon, forcément, dans.
Surtout après, j'en ai un bien.
T'en as un qui pisse le sang de partout. Ok, ce sera Milky Delivery Service.
Ah oui! Ah, putain, pardon, excusez-moi, j'ai crié. Je l'attends tellement.
Tout va bien.
du dev d'août.
Oui, c'est ça, de d'août, Bliboop et. Zaku, oui. Qui sont les trois en fait, Zaku étant le compositeur en fait, et Doot et Bliboop étant un couple de devs.
Ouais. Un jeu de Weeb, mais c'est pour ça que j'ai crié, excusez-moi.
Oui, qui en fait ont été connus dans un peu tout le monde parce qu'ils ont sorti Minami Lane.
Oui. Okay. Très très chou.
Minami Lane qui était chou, mais qui était pour moi en fait surtout très 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 court.
Oui.
Donc
c'était un tout petit jeu développé en quelques mois, je crois.
Après,
et tout petit scope.
Attention, Minami Lane, il coûte 3 balles. Donc
non, c'est ça,
évidemment,
c'est cohérent.
Donc
évidemment,
c'est cohérent,
pas de souci.
Mais le truc c'est que par exemple,
en fait, c'était si bien que tout le monde, enfin moi
t'en
pareil,
plus,
à la fin du jeu, j'étais c'est dommage.
Voilà.
C'était trop bien, mais oui.
Et effectivement, je trouve qu'avec Milky Delivery Service, ils arrivent à reproduire entre guillemets le miracle, c'est-à-dire que tu as un petit truc tout choupi où tu es livreuse de lait, tu vas rencontrer des gens, tu vas collecter des ressources pour faire plaisir aux gens et aller explorer de plus en plus pour aller livrer des gens de plus en plus loin.
Le capitalisme.
Au Japon.
Au complet. Complet. Et
ça se passe au Japon.
Et
un monde qui ressemble au Japon.
Ouais, alors écoute, je crois que tu es t'es un tanuki ou un truc comme ça. Tu rencontres des tanuki.
Oui.
Enfin bon, oui, c'est Japon sur 20. On est d'accord.
Oui, c'est ça.
c'est Weeb.
Donc c'est pareil, très très inspiré aussi, enfin très inspiré oui et non, mais en tout cas les gens vont y voir du Ghibli.
Il y a un côté Kiki Delivery Service.
Ouais.
Le truc s'appelle Milky Delivery Service, sachant que Kiki la petite sorcière en anglais c'est Kiki Delivery Service, donc bon.
Oui, oui.
L'hommage est clair, net et précis.
Mais là on est à vélo.
On est à ça du vol. Hein.
Oui, mais là en vélo, ça n'a rien à voir. Et puis voilà, le côté justement tout mignon, très apaisant, des mécaniques de gestion vraiment toutes bêtes. Y a le besoin de grind est nul. il y a rien,
oui.
En fait.
Il y a une démo, t'as pu.
Et justement, si je dis ça, c'est parce que j'ai joué à la démo.
Okay.
Et que la démo fait déjà, en gros, le temps que tu passes sur Minami Lane.
Ah oui, d'accord, cool. Trop bien. Ah, trop bien.
Donc tu dis, ouais. Après, attention, c'est pas pareil, je sais pas à combien sera le jeu, mais ce qu'il dit, c'est qu'en gros, il y aura 3 actes à peu près comme ça.
Oui, mais ça.
Donc ce sera pas très long non plus.
Ce sera un jeu court.
Mais, voilà, c'est ça. Tu dis, c'est un jeu, tu dis, tu vas passer du très bon temps dessus. Mmh. Et voilà.
Ok.
Et on ne sait pas quand ça sort, je m'en tape Day One. Day One, rien
très
à
bien.
Foutre, parce que ce sera trop bien.
Moi je suis Doot sur Insta et du coup je vois beaucoup d'images du jeu passer et c'est très très joli.
Ouais, c'est tout mimi. Ouais. Vas-y, fais-nous pisser le sang là.
Alors, je vais pas vous faire pisser le sang, je vais quand même effectivement changer un petit peu d'ambiance avec Signet City. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Oui.
Non, moi
oui.
Le prochain jeu du créateur de Citizen Sleeper, Damien Martin.
Ah mais
Martin.
Si, je retiens pas les noms.
Non, c'est
Studio Jump Over the Edge.
À l'époque, on n'en savait pas grand-chose.
Alors, on n'en sait pas beaucoup plus. Hein.
Il y a une interview, je crois.
Ouais,
je sais
vite
plus.
Fait.
Bon,
mais,
pardon, je te laisse. Excuse-moi.
Mais le mec qui a fait In Over Waters et Citizen Sleeper 1 et 2. Moi je prends. Ouais.
Oui.
Tu regardes.
Moi je prends. Surtout qu'en fait, il nous propose donc un RPG à la première personne. Qui change aussi beaucoup ce qu'il avait déjà proposé dans un fungal punk, comme il dit.
Avec une DA qui n'a rien à voir.
Une DA qui, effectivement, on n'est pas du tout sur le même artiste qu'il avait accompagné sur les Citizen Sleeper, dans lequel, en fait, on joue donc un parasite qui va essayer d'évoluer dans une ville, tout simplement en passant d'hôte en hôte. Et on est un parasite
Omicron.
Champignon. Fungal Punk. Donc voilà, effectivement, on ne sait pas forcément grand-chose. On a vu des images en noir et blanc de personnes qui n'ont pas l'air d'aller très bien.
Mais même pas
dans une ville qui n'a pas l'air d'aller très bien.
Mais pas une image de moteur ou de quoi que ce soit. Il n'y a pas de in-game, en fait. Pour
non, très peu. Effectivement, on n'a vraiment pas... Enfin, c'est difficile, en fait, d'envisager comment le jeu va être présenté. Mais si on cite, effectivement, les jeux qui nous ont... Enfin, qui nous donnent envie d'en savoir beaucoup plus et de y jouer Day One, pour avoir beaucoup apprécié les précédents jeux du gars, j'ai envie de savoir, là, aujourd'hui, il prend des risques. Et clairement, il prend un risque. Il aurait pu faire, peut-être pas faire un Citizen Sleeper 3, mais au moins, en tout cas, rester dans cette logique.
Si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, un Dusk Punk, effectivement.
C'est-à-dire, en gros, un jeu avec la même mécanique, mais dans un autre univers, parce que. Et d'ailleurs, Dusk Punk marche très bien, parce que c'est littéralement, je calque l'univers, je calque le gameplay de Citizen Sleeper et je le fous dans un autre univers.
C'est ça, c'est ça. Il aurait pu, effectivement, rester sur ce qui lui a déjà amené un succès très, 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 très respectable. Et
j'aime bien, et ça me fait penser à ce qu'avait fait Lucas Pope avec Return of Bradin, où tu t'attendais pas à ce qu'il fasse ça après Paper Please.
Ouais,
quoi.
C'est ça, avec une direction artistique très différente.
Ouais. Oui.
Là, effectivement, il s'est entouré aussi d'artistes assez différents. On est sur quelque chose de beaucoup plus monochrome, beaucoup moins coloré que qu'ont pu l'être ces jeux précédents. J'ai pas énormément de choses à en dire, à part effectivement qu'on joue à la fois le Parasite et les hôtes du Parasite. On est censé donc faire des choix de voix en fait pour les personnages, avec agir dans le monde et influer sur le monde. Dans une ville bizarre qui s'étend à travers des hubs qui grossissent comme nous finalement,
j'ai trouvé qu'il y avait une influence Blame. Si vous connaissez peut-être Blame étant un manga de Tsumonihei. Et avec une, en fait, la ville grandit d'elle-même de façon entre guillemets autonome, quoi.
Ouais, et là c'est vrai que c'est
et j'ai l'impression que c'est un peu ça, tu vois.
Un petit peu dans l'idée. Alors on va rester sur des lancers de dés. En tout cas, c'est ce qu'il indique lui-même dans une logique de jeu de rôle sur table au niveau des prises de décision et d'évaluation des réussites ou des échecs.
Ouais, ce qui n'était pas le cas de... On est d'accord, c'est pas le cas de Citizen Sleeper.
Non.
Où c'était, tu as une valeur qui va te savoir...
Tu vas utiliser finalement des ressources qui sont sous la forme de dés qui sont déjà tirés et que tu vas... C'est pas comme si tu essayais une action et que tu vas avoir...
Ça m'arrache la gueule de le dire, mais tu as des dés ou des cartes avec des nombres dessus, et ben c'est bien pareil.
Exactement. Et c'est pour ça que j'arrête pas de te le dire.
Tais-toi.
C'est pas parce qu'il y a des cartes
Taisez-vous.
C'est un jeu à cartes.
Taisez-vous, les camaches.
En tout cas, ça donne vraiment envie d'en savoir plus sur le jeu donc de Gareth Damian Martin pour donner son nom complet. La principale personne derrière le studio Jump Over the Age, qui est auteur, designer, artiste et qui sait s'accompagner la plupart du temps de gens qui savent pousser sa vision créative.
Et pour celles et ceux qui ont kiffé Citizen Sleeper, j'avais lu qu'il avait dit qu'il n'y aurait pas de suite, qu'il y en avait deux et qu'il n'y en aurait pas ensuite, mais qu'il y aurait un jeu de société. Et donc, il est dispo sur Itch gratuitement, un RPG sur table. Donc voilà, si vous avez envie de rester un peu dans cet univers, mais il y aura pas de suite. Il avait dit que
mais
en jeu vidéo non.
En même temps, je trouve que effectivement il y a des RPG où tu dis à se transposer en côté table, hein, c'est un petit peu différent. Typiquement, tu me dis faire The Witcher 3 sur table, ben oui, alors tu peux le faire, mais par contre en gros il faut le MJ, il faut le bordel et tout ça. Il y a un côté très jeu sur plateau dans Citizen Sleeper qui fait que ouais, je comprends très bien comment ça peut fonctionner.
Ouais, carrément.
Il nous reste 5 minutes.
Tu as le droit à 1 minute pour ton prochain jeu.
C'est à mon tour ?
Oui.
Ah ouais ? Merde, je pensais que c'était à toi, Xavier.
Tu as le droit à 50 secondes pour ton prochain jeu.
Eh ben non, mais du coup, je vais juste name drop deux jeux dont vous avez forcément entendu parler, j'ai pas besoin de m'étendre dessus, mais qui m'intriguent beaucoup et que j'ai très envie d'essayer, c'est Control Resonant, parce que j'aime beaucoup l'univers des jeux Remedy, que je trouve que le lore interconnecté de leurs jeux, leurs différents jeux, est passionnant, que j'ai kiffé l'histoire de Control, mais comme je déteste les combats de flingue, bah là l'idée de me battre avec un marteau, un gros marteau géant, bah ça me chauffe.
Ouais, ça me fait vraiment penser à du DMC, pardon, Devil May Cry,
oui,
en fait.
Ouais,
dans le côté très baston, tu fais sauter les types dans tous les sens.
Ouais. Donc, à voir ce que ça donne. J'espère qu'ils vont s'en sortir, parce que c'est la première fois qu'ils vont faire un jeu de ce genre. Et puis le deuxième, très rapidement, God of War Low Fail, parce que j'ai adoré la narration des deux derniers.
Ils nous ont offert 10 minutes de trailer.
De gameplay, enfin, gameplay trailer.
Oui, c'était le trailer, les 15 minutes. C'était trop bien.
C'était incroyable. Incroyable.
En fait, c'est, moi je dirais que ça ne donne pas envie de tant de jouer au jeu, parce que j'ai plus envie de voir quelqu'un y jouer pendant super longtemps, parce qu'il y a un code, c'est tellement immersif dans le truc comme ça, tu dis, enfin voilà. Genre, je serais vraiment, genre, il y a quelqu'un qui fait le stream sans parler et qui fait tout le. Je suis dedans.
J'ai tellement adoré la narration des deux derniers God of War que du coup j'ai trop hâte qui me servent un peu ce même genre d'histoire et de narration. En plus là, je suis trop curieuse d'en apprendre plus sur Lofey qu'on connaît pas, la fameuse femme de Kratos. Donc voilà, très très intriguée. Et puis oui, de ce qu'on a pu voir, ça a l'air hyper stylé. Bon, alors après, il y en a qui ont dit les petits animaux mignons, bif bof, enfin, qui n'ont pas adhéré par. Comment dire ?
Ils veulent du sang pour le dieu du sang, évidemment.
Ouais, voilà. Mais bon,
le dieu de la guerre.
Le dieu de la guerre. Enfin. Non, mais de toute façon, à partir du moment où on dit c'est qui ton sidekick, la réponse est un blob bleu cubique, j'ai envie de dire Game of the Year. Le reste ne m'intéresse pas. Putain, c'est incroyable.
Il est motion capé, le mec. Hein.
Mais évidemment, c'est trop bien.
Et toi, qu'est-ce que tu as en 2 minutes ?
Eh ben, en 2 minutes, je fais assez vite. Je suis passé par la Southeast Asian Game Showcase pour parler de Dungeon Hot Pot, qui est tout simplement un coffee talk dans un donjon. Et j'ai pu jouer à la démo, c'était très très cool.
Okay.
Très très cool.
Je sais que tu avais joué à Tavern Stories ou à Tavern Stories.
Le nom. Ouais, Tavern Stories m'a moins convaincu. Là, justement, tu as vraiment le côté. Je suis désolé, je vais m'adresser à ma collègue Weeb. Peut-être connais-tu Glouton et Dragon.
Oui.
Bon. Bon, joue à Dungeon Hot Pot.
Okay.
Voilà.
Ok.
Voilà.
Très bien.
Sur le côté, les héros peuvent aussi être en dépression pour plein de raisons. Voilà. Et le deuxième, ça va être Burn 9, qui était à la Story Rich Showcase. C'est un thriller d'espionnage où on va jouer un opérateur qui est resté à l'arrière pour charger de guider la dernière survivante d'une mission qui a largement foiré par, en gros, de la surveillance, du hacking et des choix.
Un jeu d'interface, quoi.
Un gros jeu d'interface, oui. J'aime un tout petit peu les jeux d'interface, c'est très possible. Et les deux trucs qui m'ont beaucoup plu, c'est que tu vas avoir des jeux... tu vas avoir des choix, en fait, ils vont se régler un peu comme... Ce jeu russo-ukrainien dont je me souviens jamais, où tu as quelqu'un qui, une enquêtrice qui est stationnée chez elle et qui doit hacker des gens. J'oublie toujours le nom.
Song of Farka.
Voilà, Song of Farka. Tu as ce type de gameplay. Et en plus, tu as une présentation qui est celle des premiers Metal Gear Solid. Dans les Metal Gear Solid, tu joues la personne qui est la dernière survivante en général de l'opération qui a foiré. Là, en fait, tu joues l'opérateur, quoi. Et limite, tu regardes l'interface et t'as envie de dire Snake. Voilà.
Ok. Et du coup, moi, pour terminer, je veux parler de très vite aussi The Tellwinium.
Oui.
The Tellwinium, qui est un point and click.
La partie 5.
Particulièrement, non, 4.
4, ah, c'est la partie
particulièrement 4. À l'ancienne, puisqu'au niveau des graphismes, on revient dans les années 80, 90.
On est sur des jeux
Sierra. 80. non, c'est pire encore.
Ah ouais.
Mais c'est un jeu de Powerwolf, donc on les connaît parce qu'ils ont fait The Drifter.
Excellent.
On les connaît parce qu'ils ont fait Crawl. Ils ont fait aussi énormément de petits point and click gratuits disponibles sur itch.io, que je conseille quasiment tous parce qu'ils sont tous très très cool, très bien écrits. Ils ont leur propre moteur pour justement faire tout ce qui est jeu d'aventure point and click. The Tellwinium, on est beaucoup plus sur de l'heroic fantasy, qui avait donc été d'abord sorti en 3 épisodes distincts sur itch.io gratuit. Et effectivement, l'arrivée, là, ils l'ont présenté, je ne sais plus, à l'occasion, je crois, du Story Rich.
Je crois que c'était Story Rich
ouais,
aussi.
Au Story Rich Showcase. Et donc,
c'est chez Fellow Traveler, c'est Drifter chez Fellow Traveler.
Pas chez Fellow Traveler, mais
c'est juste Drifter. C'est
Drifter, effectivement, ils l'ont fait là-bas. Et donc là, voilà, on est effectivement sur une histoire que j'ai trouvée très très bien écrite sur les trois premiers épisodes qui sont disponibles gratuitement sur itch.io, que je conseille très fort. Et donc là, c'est la quatrième, le quatrième épisode qui vient conclure l'histoire de The Tailwindium, que si vous aimez les jeux d'aventure point and click un petit peu à l'ancienne, un petit peu classique, où on vient interagir avec des objets, parler à des gens et voilà, simplement ramasser des trucs, etc., passer de tableau en tableau, c'est vraiment de très très bonne qualité en termes d'écriture et en termes de puzzle. Et donc je le conseille très fort parce que bah, il faut passer outre les graphismes qui sont quand même un peu compliqués.
Moi,
pas
en fait,
forcément très engageant.
Étonnamment, ça m'a pas tant choqué.
D'accord, parce qu'effectivement, on avait déjà parlé de graphismes qui, moi,
oui,
me
dérange.
Oui,
non,
pas
mais ceux-là, effectivement,
t'avais
c'est peut-être parce que ça me rappelle les King's Quest, en fait.
C'est vrai qu'on est assez proche de cet esprit-là des tout premiers.
Voilà, et c'est peut-être pour ça, c'est le côté nostalgique et pas le côté, c'est peut-être objectivement pas beau, mais.
Oui.
Alors,
mais bon.
J'irais pas jusqu'à vous dire que c'est beau, mais je trouve que ça fonctionne bien, et surtout, bah, pour moi, ce qui m'intéresse le plus dans les jeux d'aventure, c'est évidemment la qualité de l'écriture et la qualité des interactions, donc des puzzles, etc.
Évidemment.
Et celui-ci, vraiment, c'est de la qualité, je suis très content, en fait, qu'il termine l'histoire en le présentant de cette façon, en fait, en prenant le temps de le présenter dans un événement comme le Summer Game Fest dans son ensemble.
Ok. Eh ben, merci Romain. Merci Bettina.
Merci à vous également.
Merci à vous deux.
On remercie encore une fois le collectif Presse F5 qui hébergera ce podcast, le nerf de la game, à partir de, ce soir, dès ce soir, je m'engage.
À la fin du match.
Voilà. Et à la mi-temps. Et Radio Canu pour l'accès au studio. Est-ce qu'on se retrouve probablement la semaine prochaine?
Sûrement.
Moi, je suis là.
Eh ben, moi aussi. Semaine prochaine. Et puis, d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien.
Prenez soin de vous, faites attention à la chaleur.
Ouais.
Voilà,
hydratez-vous.
Protégez-vous, restez près de votre ordi, votre console. Voilà.
Ouais, le truc qui fait plein de chaleur.
Le truc qui chauffe là à fond là. C'est voilà, c'est ça. Allez,
il y a des ventilos dedans.
À la semaine prochaine.
Salut, bonne soirée.
Salut.
Bye.